Radio Foot International, spécial UEFA Euro 2024 avec Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous quotidien de Radio Foot International sur la Radio Mondiale, bien sûr. Et commençons par ces Anglais de retour en finale de l'Euro. Ils ont renvoyé à la maison les Néerlandais et leur vague de supporters orange après leur victoire et sans doute leur meilleur match du tournoi dans cet Euro. La Free Lions retrouvera La Roja à Berlin. Ce sera dimanche soir. Paris gagné pour le si critiqué Gareth Southgate. Argentine-Colombie en finale de la Copa América, l'autre compétition que l'on suit aussi ici à Radio Foot. Les Cafeteros se sont défaits des accrocheurs uruguayens grâce à un seul but. Et les voilà finalistes grâce aussi au retour à son meilleur niveau de leur capitaine James Rodriguez. Le cri d'alarme de nos confrères africains dans une lettre ouverte au président de la CAF. Il se demande si l'avenir des compétitions continentales, CAN et CHAN, ne sont pas menacés par le diktat de la FIFA en Afrique. Le président de la IPS Afrique, qui a expédié cette lettre, Abdoulaye Thiam, sera en direct avec nous dans cette émission. Et pour évoquer les sujets, eh bien, un Anglais dans la place. Il est là, tout sourire.
Ne dites pas ça.
Hello.
Hello.
Hello, Bruno Constant.
Je suis rentré spécialement cette nuit pour vous retrouver.
C'est vrai. Uniquement. Alors avec votre maillot Brésil en plus, tout me va.
Ah ben voilà, oui.
La carte du Brésil. Mais surtout, vous êtes quand même rentré à Radio Foot en étant correspondant à Londres pour Radio Foot. Donc,
Mais je ne suis pas anglais.
Vous avez des liens. Non, je sais bien. Je plaisantais, mais on a tous une petite tendance comme ça au coin du cœur. Qu'on soit
je suis content
ou pas,
aussi pour Gareth Southgate.
Voilà. Binational, ah oui, ben on va en parler. Bonjour Patrick Juillard.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Et puis Nabil Gélitin, aujourd'hui bonjour. Vous êtes ensemble tous les deux dans le même studio.
C'est trop rare.
C'est devenu rare, oui, finalement.
On va en vacances ensemble, non, c'est ça.
Ça nous arrive du côté de Marseille. On fréquente des soirées, nous.
Débridé,
très sympa en bord de mer.
Voir des matchs au Vélodrome aussi, quand
ça
même.
Ça nous arrive aussi.
Voilà, ouais, tout à fait.
Avec un certain Mathieu Grégoire. Qui est aussi notre correspondant du côté de Marseille, bien sûr. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission et Mathieu De Gueldre est à la réalisation. À Radio Foot, c'est parti.
Et attention, Ollie Watkins qui est trouvé dans la surface, qui va frapper, qui va marquer. Ollie Watkins, le sauveur de l'Angleterre. Qui croise sa frappe, ils sont tous sur la pelouse. Harry Kane qui saute sur Ollie Watkins. Les troisièmes gardiens, Ramsdale, tout le monde est là. 2-1 pour l'Angleterre qui se dirige vers la finale de cet Euro.
L'Angleterre, donc finaliste de l'Euro en Allemagne, et pour la deuxième fois consécutive, on s'en souvient, la dernière fois c'était en 2021 et c'était à Londres, à Wembley. Un exploit donc pour les hommes de Gareth Southgate qui ont laissé exploser leur joie hier soir quand leur but sur le fil, à la 91e minute, a été inscrit, évitant le stress des prolongations et des tirs au but pour tout le monde. Le capitaine anglais Harry Kane, à ce jour meilleur buteur de la compétition, partageait sa joie et c'était au micro de Martin Guèze.
C'est un accomplissement incroyable, on peut être très fier. Ce n'est pas terminé et ça va être énorme dimanche, on a hâte d'y être. Tout le tournoi parle pour notre coach. Nous faisons ce qu'il y a à faire, on va très loin dans cette compétition. On peut dire que le boulot est fait. Et aller en finale deux fois de suite, c'est loin d'être évident. Et notre boss, Gareth Southgate, en est le premier responsable. Il n'a pas eu peur de faire des changements, de faire ce qui est le mieux pour l'équipe. C'est ce que nous faisons tous d'ailleurs, on s'entraide tous. On sait ce qui est le plus important, ce qui a le plus d'impact. Et il faudra le refaire ce dimanche. On est vraiment très impatients.
Ouf, hein, je ne sais pas comment on dit ouf en anglais.
Ouf, je sais pas.
Mais bon, on pourrait chercher. Les Anglais sont donc là, à 90 minutes de poser la main sur un trophée qu'ils n'ont jamais rencontré, qu'ils ont vu de si près. Ouais. Et on sait ce que c'est en France aussi, ouais. De voir de si près un trophée et de ne pas le remporter. Bruno, grand soulagement du côté de Londres, j'imagine, et pour cette sélection.
Ouais, grand soulagement. Je pense que le grand soulagement, c'était surtout contre la Slovaquie, quand ils sont passés tout près d'élimination avant le retourné de Bellingham. Dans les derniers instants. Là, il y avait vraiment de la joie. Il y avait vraiment de la joie, mais de la soulagement, évidemment, soulagement par rapport à toute cette compétition qui a été extrêmement poussive, longue à se dessiner, avec beaucoup de changements, beaucoup de tâtonnements. Et enfin, Gareth Southgate est arrivé à une bonne formule. Enfin, en plus, il a fait des bons choix en sortie de banc.
Parce qu'il avait changé presque tous les matchs depuis le début. Là.
Il tâtonnait au milieu de terrain pour trouver le bon joueur. Il y a des joueurs qui se sont révélés, comme Kobbie Mainoo, le petit joueur de Manchester United. Foden, qui a été remis dans un secteur où
presque à sa place. En
tout
cas, il y va tout
City.
Seul. Hein, si on ne le met pas là, il y va.
Et puis des stars qui ne sont pas forcément très bonnes, mais qui sont décisives. Donc voilà, il y a un assemblage de qualité, d'expérience, de maturité qui est en train de se dessiner, de porter l'Angleterre. Southgate avait fait quand même 3 demi-finales en 4 tournois. Il est beaucoup critiqué, mais 3 demi-finales en 4 tournois, c'est énorme.
Et surtout, deuxième
finale consécutive. Non, non, mais ça, dans les critiques qu'il y a pu avoir, il faut en prendre en compte la progression de cette équipe.
À d'autres sujets. Patrick Juillard, ce qu'on peut se dire, c'est que c'était quand même un bon match des Anglais, peut-être le premier depuis le début du tournoi.
En fait, l'Angleterre a fait hier soir contre les Pays-Bas le match que tous les supporters des Bleus attendaient de l'équipe de France et espéraient qu'un jour, enfin, avec tous ces joueurs-là, avec tous ces talents,
on allait enfin faire un bon match.
On n'avait pas trop pris sur la marchandise.
Ça n'est jamais arrivé avec l'équipe de France.
Et on n'a pas eu arrivé, le temps,
peut-être. On a eu 5 occasions, on les a toutes ratées. Donc, et c'est, pour les Anglais, c'est arrivé hier soir parce qu'être mené aussi vite dans un match, quand vous avez été aussi poussif et moyen lors des précédents, on peut avoir le doute qui trotte dans les têtes.
Et ça a été leur force tout le long du tournoi. Et ils sont menés contre la Suisse, ils sont menés contre la Slovaquie.
Et donc finalement,
les
vertus britanniques de fighting spirit et de ce côté un petit
Fair
peu battant,
tout ce qu'on connaît dans la première ligue.
De jamais s'avouer vaincu, elles se sont traduites aussi footballistiquement avec non seulement une égalisation, alors le pénalty, on en débattra peut-être après, pénalty ou pas, je ne sais pas, mais ils ont enfin mis les ingrédients, ils ont enfin montré ce qu'on pouvait espérer de joueurs de ce calibre-là alignés tous ensemble. Et c'était enfin présentable dans le rendu, dans le contenu. On a enfin un bon match des Anglais, et donc bravo à eux. Il était temps, mais il faut le saluer. Maintenant, tous les doutes ne sont pas forcément chassés.
On va y venir.
Quelle version de l'Angleterre verra-t-on en finale?
on va voir ça. Mais Nabil, ce qu'on peut se dire aussi, c'était le meilleur match. Mais on pense déjà à l'Espagne, bien sûr, que l'Angleterre va retrouver à Berlin. L'Espagne a remporté tous ses matchs. Pour l'instant, l'Angleterre, c'est la moitié. C'est-à-dire 3 victoires en 6 matchs.
Ouais, pour l'instant, l'Angleterre, c'est l'histoire d'un tournoi. Et l'Espagne, c'est la meilleure équipe du tournoi. Mais ce n'est pas toujours la meilleure équipe qui gagne. Quand c'est le cas, c'est très bien. D'ailleurs, Southgate est très lucide dans son analyse. Il dit on va jouer contre la meilleure équipe du tournoi. Et je pense qu'on est tous d'accord. Le parcours de l'Espagne, il est absolument extraordinaire. Il limite la casse sur cet euro un peu insipide. Croatie, Italie, Albanie, France et le tour d'avant, je ne me souviens plus, en 8e de finale, qu'ils ont sorti. Et la Géorgie, qui était une équipe très belle et joueuse et qui a été une des révélations du tournoi. Maintenant, l'Angleterre, elle fait preuve quand même d'une forme de maturité. Tactiquement, elle a été bonne hier, elle a bloqué, elle a annihilé pour moi ce qui faisait la force de cette équipe des Pays-Bas, et même historiquement, ce qui fait sa force, ce sont ses ailiers. Gakpo, et là, il avait plutôt fait le choix de Malen. Ils ont été mis en difficulté par le système de jeu choisi par Southgate depuis 2 matchs. Bon, vous n'êtes pas obligé de gagner tous vos matchs pour gagner une compétition. Hein. D'autres pays en Europe en ont très souvent fait l'expérience.
Le Portugal,
l'Italie, par exemple. Ouais. Le Portugal, vous avez raison, c'est un exemple plus récent. Et alors moi, ce que je trouve bien, c'est là où je suis d'accord avec Patrick, c'est qu'il n'y a pas eu tromperie un peu sur la marchandise. Parce que moi, l'Angleterre et la France ces derniers temps, ça me faisait penser un peu au PSG, à Manchester United. C'est-à-dire, quand vous regardez les ingrédients, vous êtes excité. Et ensuite, quand vous avez le rendu et quand vous avez le plat dans l'assiette, vous n'avez pas envie de manger. C'est pour ça que je dis qu'il y a tromperie sur la marchandise. Et là, ils ont retranscrit en grande partie leur potentiel. Et en choisissant en plus une équipe et en laissant, parce qu'ils ont quand même une densité de joueurs exceptionnelle, et en laissant aussi des talents insolents à la maison.
Ouais. Et puis le coaching aussi de Southgate qui a été très critiqué, il a sorti deux joueurs à statut, à savoir Foden et Kane. Beaucoup, alors que Foden, bon, Kane avait marqué le but sans faire un grand match du
c'était
tout,
un
il avait néanmoins pris ses responsabilités. Foden faisait son meilleur match depuis le début de l'Euro. Southgate les a sortis et les deux remplaçants sont passeurs et buteurs pour
Il a fait ce que Roberto Martinez n'a pas fait avec Ronaldo, ce que Deschamps
n'a pas fait
avec Mbappé. Ça montre
qu'au moins il a encore un ascendant sur ses joueurs et que les statuts n'ont pas pourri la gestion du groupe, contrairement à ce qui est le cas pour Martinez et Deschamps.
C'est d'ailleurs ce qui transparaît quand même de cette équipe, de son huis clos dans leur hôtel où ils ont laissé transparaître les choses, mais qu'ils s'amusent, qu'ils jouent les uns contre les autres, que ce soit aux fléchettes, que ce soit aux échecs, que ce
pas
soit autre chose.
Pas d'affaires extra-sportives. C'est important.
Ils les ont bien étouffés.
Ed Sheeran qui leur porte chance apparemment, parce qu'il était déjà là en 2021. Alors on verra
il faut bien ça pour calmer les tabloïds, Annie, vous le savez.
Par contre, on avait eu l'impression dès le premier match qu'ils étaient très fatigués, ces Anglais, Bruno. On se souvient, au premier match, on s'est dit, oula, ils iront pas loin.
Ouais, contre la Serbie. Et
là, ils tiennent quand même sur la distance.
Ouais, alors moi, je trouve que c'est un peu une impression générale parce que j'ai un peu le sentiment que les Bleus, c'était pareil, que beaucoup d'équipes en dehors de l'Espagne...
Carlos Bianchi nous a dit que c'est l'euro des équipes fatiguées.
Ouais,
des sélections fatiguées,
surtout en plus chez les grands joueurs, exactement.
Ouais, tout à fait.
Après, l'Angleterre, je ne vais pas dire qu'il y a une montée en puissance, mais on sait que Southgate accorde beaucoup d'importance à tous ces petits détails pour contrôler davantage le tempo, pour aller loin dans la compétition. Ça, il s'est basé en copiant les succès d'Didier Deschamps. Mais
je trouve, pas trop quand même.
Je trouve que Southgate, et Patrick l'en parlait, c'est quelqu'un qui a été très critiqué, notamment sur des choix, par exemple, de laisser sur le terrain Bellingham, il l'a encore fait hier jusqu'au bout, alors qu'il ne montrait pas grand-chose. Et en même temps, on voulait tous sortir Bellingham contre la Slovaquie, et finalement...
C'est lui qui est décisif.
Et c'est lui qui sauve l'Angleterre.
Comme avec le Real.
Même chose avec Harry Kane par le passé.
C'est pour ça que les grands joueurs, en général, on n'ose pas les sortir.
Et là, pour le coup... Plus la compétition avançait, plus il a modifié un peu ses pions de place. Il a changé de système. C'est pour l'instant une vraie réussite parce qu'à gauche, il y a un peu plus de présence.
Alexander Arnold, par exemple, a disparu finalement.
Arnold, qui était une expérimentation, est sorti. Foden, il a remis dans le cœur du jeu. Il a été exceptionnel hier.
Enfin.
Et puis, il a fait confiance que devraient faire davantage les entraîneurs à tout ce banc. Ils ont une richesse de banc exceptionnelle
et
l'Angleterre.
Surtout, il leur a fait confiance. Faire jouer des joueurs de clubs qui ne jouent pas la Ligue des Champions. Ouais. Oli Watkins, par exemple.
Marguerite, qui était quand même
formidable.
Aussi une énigme. Ouais, quand il est arrivé, il a été bon. Kanza, qui l'a remplacé, a été bon. Mais nous, c'est pour moi une des sensations.
Des révélations.
On dirait Renato Sanchez avec le Portugal en 2016.
Ouais, un peu
pas
ça.
Pas dans l'esprit.
J'espère qu'il sera moins blessé par la suite.
Gareth Southgate, on en parle, sous le feu des critiques depuis avant même la compétition, puisqu'il y avait cette histoire de liste avec certains bons joueurs restés à la maison. Gareth Southgate, très fier à l'issue de cette demi-finale qui est donc gagnée.
Well, I hope they're enjoying a few beers, really. We've had some incredible nights.
J'espère que les fans savourent quelques bières. Nous avons vécu des soirées incroyables au cours des 7-8 dernières années. Ces matchs ont été dramatiques parce que les buts ont été marqués très tard. La seule raison pour laquelle j'ai accepté ce poste était d'essayer d'apporter le succès à l'Angleterre en tant que nation et d'essayer d'améliorer le football anglais. Je suis immensément fier d'avoir pu emmener l'équipe à sa première finale à l'étranger. Mais maintenant, bien sûr, nous sommes venus ici pour gagner. Nous jouons contre la meilleure équipe du tournoi et nous avons un jour de moins pour nous préparer. C'est donc une tâche énorme. Mais nous sommes toujours là et nous allons nous battre.
Les Anglais ne disputent pas si souvent des finales, Bruno, de compétition internationale. Et c'est la première fois en fait que ce n'est pas à domicile. C'est ce qu'il dit, Gareth Southgate. Parce que les deux fois précédentes, que ce soit 1966, la finale de la Coupe du Monde, ou le dernier Euro, eh bien, c'était en Angleterre et à Londres.
Et c'est important parce que c'est souvent ce qu'on a reproché à l'Angleterre, c'est de craquer sous la pression populaire, d'être le pays hôte, d'être le favori. Et là, il est malin, Southgate. Dès le début, dans sa conf, il dit « la meilleure équipe, c'est l'Espagne, c'est eux les favoris, nous, on arrive ». Maintenant, l'Angleterre et la maturité qu'est en train de développer l'Angleterre est importante, la force de caractère qu'est en train de développer l'Angleterre est importante. Ils arrachent le match nul contre la Slovaquie avant d'arracher en prolongation la qualif. Ils réagissent à l'ouverture du score face à la Suisse en fin de match, là aussi fort de caractère. Et là encore, ils vont arracher dans des toutes dernières minutes. Et ça, c'est pas anodin quand même. C'est quelque chose qui se construit avec le temps et avec un groupe assez homogène. Et là, c'est la force de Southgate. Lui qui a été violenté, critiqué comme jamais hein, depuis qu'il est en poste, jusqu'à présent, depuis 2016, tout passait, tout était lisse sur lui. Tout ce qu'il faisait était bien, tout ce qu'il faisait était applaudi par les médias et par les consultants. Et là, il s'en est pris vraiment plein la gueule, notamment par les consultants célèbres. Et lui, il n'a jamais dérogé à son calme, à sa placidité.
Il a été très défendu. Tout à l'heure, on entendait Harry Kane qui n'arrête pas de dire oui,
joueurs, ouais.
Avec Southgate, grâce à Southgate. Ouais. Donc, ces joueurs, en plus, font corps, en tout cas, au moins pour la compétition.
En surface, hein, parce qu'à l'intérieur, c'était très mouvementé le début de l'Euro. Il y avait des tensions. C'est aussi pour ça que ça ne marchait pas. Et Southgate a mis tout le monde d'accord, en fait. Ses choix ont été payants et aujourd'hui, il en sort vainqueur.
Patrick Juillard, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'on a souvent vu, hein, il y en a plus des générations dans le monde du football brillantes et qui ne gagnent rien. Alors, on peut penser au Brésil des années, la fin des années 70, 80.
Beaucoup d'équipes des Pays-Bas.
Exactement, qui hier sont encore sorties. Et là, on se dit...
Le Ghana.
Pour aussi, l'Afrique, on en a vu aussi d'autres. Est-ce que c'est peut-être enfin la chance pour la bande à Harry Kane, finalement?
Là, c'est... l'histoire ne repasse pas forcément les plats.
Ils ont eu de la chance, vous déjà. Deux finales consécutives.
Là, ça sera la deuxième finale d'Euro en 3 ans, puisque l'Euro 2020 avait été décalé. Mm-hmm. Donc, le groupe n'a pas changé de fond en comble. Évidemment, il y a des nouveaux.
Il y en a
qui sont sortis. Mais ils ont un vécu commun. Contrairement à l'Espagne, qui est une équipe très renouvelée, eux ont des heures de vol. Donc on peut espérer qu'au niveau de la gestion du match, du grand rendez-vous, ils seront peut-être un cran au-dessus des Espagnols. Ils ont un entraîneur qui en est à sa quatrième demi-finale de grand tournoi.
Joueurs compris, oui.
Voilà,
avec
mais
l'Euro 96,
plus 1, disons.
Ouais.
Bon,
la maîtrise des événements peut être importante.
Ils peuvent espérer, mais après, on a souvent dit ça pour les Anglais, et depuis 66, ça n'arrive jamais. Donc malheureusement...
Oui, ça peut être les poulies d'or du football.
Ils le sont déjà depuis un moment.
Il faut que, contre l'Espagne, ils sont prévenus. Il ne faut pas trop laisser le ballon. Il faut imposer sa puissance et ne pas se relâcher.
Justement, Espagne-Angleterre ou Angleterre-Espagne, ça sera donc cette finale. Et le sélectionneur de la Roja, Luis de la Fuente, il a été interrogé au sujet des futurs adversaires. Heureux à la perspective de cette affiche inédite, nous dit-il.
Emoción ante un rival, una entidad altísima, importantísima, con grandes futbolistas y creo que invita a pensar que puede ser un grandísimo espectáculo.
Il y a de l'excitation à l'idée d'affronter un adversaire très prestigieux avec de très grands joueurs. Ce sont deux équipes en très bonne forme et tout porte à croire que ce sera un grand spectacle. Nous avons des styles assez différents. L'Angleterre est une équipe physique avec des joueurs qui aiment les espaces. Nous allons essayer d'imposer notre style, d'avoir la possession, bien que nous ayons aussi la possibilité de jouer en contre-attaque. Mais dans une finale, d'autres aspects entrent aussi en ligne de compte. Ne pas faire de faute, le sentiment de savoir qu'il y a peu de marge d'erreur, ne pas vouloir perdre et tout faire pour gagner.
La sensación de saber que hay poco margen de error, el no querer perder, el querer ganar.
Et oui, évidemment, personne ne va vouloir perdre cette finale. Alors, on en reparlera évidemment demain dans le Café des Sports. Mais Nabil, c'est quand même à l'issue de cet Euro qui nous a pas hyper emballés sur tous les matchs, en tout cas, c'est quand même une affiche prometteuse pour la finale.
Ah bah, qui va être couronné, si je puis me permettre, puisqu'on parle de monarchie constitutionnelle. Non, mais la finale, elle est belle. On en parlait juste avant. De toute façon, c'est quand même le championnat d'Angleterre, la Première Ligue, face à la Liga, en quelque sorte, qui sont les deux championnats les plus puissants en termes de trophées, en termes de ce qu'ils peuvent avoir comme rayonnement en Europe, voire dans le monde depuis très longtemps. Il y a quand même des matchs dans le match. Pour moi, il y a Foden contre Lamine Yamal, il y a Morata contre Kane. Il y a cette histoire de Kane, est-ce qu'il va enfin déverrouiller, valider, enfin gagner un trophée, et avec sa sélection nationale, ce sera encore plus extraordinaire. Il y a cette histoire de l'Angleterre qui, depuis 66, n'a jamais rien gagné. Il y a cette mutation dans le jeu, tout en conservant son ADN de l'Espagne. Donc, en fait, il y a plein de matchs dans le match, il y a plein d'enjeux. Et c'est une belle affiche, évidemment que c'est une belle affiche. Et je trouve que le tournoi, il est insipide globalement, je suis d'accord avec vous. Mais je trouve que ça a été quand même mieux sur les demi-finales.
Les deux demi-finales sont présentables.
Parce qu'il y a eu des buts rapides dans le match.
Ouais, voilà, c'était un peu plus ouvert.
Ça a décanté des.
Il n'y a pas eu que des tirs.
C'est un N'Golo décanté, pour les Espagnols.
Joli. Tu l'avais préparé, mais elle est jolie.
Pas préparé. Et attention aussi à un joueur qui je trouve absolument extraordinaire, qui a un niveau Ballon d'Or. Je ne sais pas s'il sera Ballon d'Or, Mais l'Espagnol Rodri, c'est le meilleur milieu de terrain au monde actuellement, sans aucun souci.
Ouais, c'est exceptionnel.
D'ailleurs, ça va être lui qui, ça va être la clé du match.
Et franchement, et ça serait bien qu'un jour un joueur comme ça soit récompensé, parce que
ça peut être son année si l'Espagne gagne.
Moi, j'étais à la demi-finale, à la demi-finale France-Espagne. On était très très haut dans le stade de l'Allianz Arena et j'étais bloqué sur Rodri parce que tout ce qu'il fait, tous ses déplacements, sa communication, ses touches de balle qui sont très limitées finalement par rapport à ce qu'il fait, tout est juste. Franchement, c'était une mélodie absolument magnifique.
C'est vraiment la plaque tournante, sens positif du terme. Ouais. Quoi.
C'est un tout petit peu moins fin que Busquets, mais c'est Busquets.
C'est moins élégant, oui.
C'est Busquets en plus costaud. Ouais. Voilà.
En gros, c'est ça. Physiquement, c'est
pas mal de perdre Busquets et de le remplacer par Rodri.
Ça va.
C'est un ordinateur. C'est un,
il y a du bon travail dans la formation espagnole. Ouais.
C'est un ordinateur.
Ouais. Bon, en tout cas, on verra ce qu'il advient de cette finale, mais c'est vrai qu'elle est très prometteuse et que on fera un avant-match demain dans le Café des Sports. On va continuer dans Radio Foot International après présenté cette future affiche et ce futur match surtout Espagne-Allemagne. Et on va vers une autre affiche de finale et c'est au tour de la Copa América.
Andrés Escobar al primer palo, viene el centro, pelota pasada de cabeza al arco.
On attendait l'Uruguay de Marcelo Bielsa, mais ce sera Colombie-Argentine. Los Cafeteros de Colombia ont hier décroché leur place en finale de la Copa América grâce à un but donc de Jefferson Lerma à la 39e minute. Avantage préservé en dépit de l'expulsion de Daniel Munoz, c'était en fin de première mi-temps. Ils ont tenu à 10 contre 11 ces Cafeteros pendant toute la deuxième mi-temps. De quoi émouvoir aux larmes, leur capitaine James Rodriguez.
Quand on veut, on peut. Nos remplaçants qui sont entrés ont très bien défendu. La rencontre a été compliquée, elle est devenue très dure, même face à un adversaire rugueux. Et voilà, on a mérité notre finale. Et face aux encouragements des 50 millions de Colombiens au pays, nous avons conscience de l'importance de ce moment pour eux. Quant à moi, excusez-moi, je suis très ému. Cela fait presque 13 ans que je porte ces couleurs en rêvant d'une finale. On est heureux. On est heureux.
L'hymne de cette équipe colombienne, c'est disponible sur leur site, le site de la fédération colombienne, cette chanson. Alors une grande émotion, car la Colombie n'est pas habituée des finales de la Copa América. Alors en plus, quand on multiplie les invités, n'est-ce pas, bien au-delà de l'Amérique du Sud, pratiquement monopolisé ces dernières années, on le sait, un peu à la mode, Real-Barça, et bien par le Brésil et l'Argentine. De temps en temps, il y a un troisième club. Alors,
le Chili, parfois.
Le Chili, 2015-2016.
Et puis l'Uruguay.
Aussi, oui, historiquement, l'Uruguay, mais c'est vrai que sur les dernières décades...
L'Uruguay, je crois qu'ils en sont à 12, non?
Non, 15 en fait. 15 Argentine, 15 Uruguay. Et c'est vrai que un des pays qui a été dominant ces derniers temps, le troisième homme, comme on dit en politique, ça a été le Chili en 2015 et 2016.
Ouais. Voilà.
Avec Alexis Sanchez.
Exactement. Bossé, avec Vidal, la belle génération Vidal.
Valdivia.
Vidal. Bravo, on peut faire toute l'équipe. Ici, on est capable de vous donner toute l'équipe.
C'est beau.
Toutes les équipes même. En tout cas, là, la dernière fois, c'était en 2001, il y a 23 ans, et la Colombie, elle avait remporté.
C'était Mario Yepes à l'époque, dans l'équipe.
Et c'était leur premier titre. Il n'y avait pas leur fameux gardien quand même.
Non, Higuita, c'était déjà
le scorpion. Oui, c'était avant, en 1994. En tout cas, c'est ce qui explique évidemment les larmes de James. Un grand moment, en tout cas pour les Cafeteros. Nabil, hier, c'était quand même un match très disputé, avec quand même cette inégalité en deuxième mi-temps. Et malgré tout, ils ont tenu, les Colombiens.
Oui, beaucoup d'intensité. Un match quand même moins haché que le Brésil-Uruguay, qui ressemblait plutôt à une
boucherie,
voilà, à du MMA comme on dit aujourd'hui, vous savez, ouais. Plutôt un truc
sans la cage,
dans un octogone avec des gens qui se mettent que des coups. Là, c'était inintéressant. Voilà, le modus operandi de l'Uruguay a toujours été le mettre la verticalité. Ils ont plutôt joué en transition, mais Núñez, l'attaquant de Liverpool, a raté quelques situations nettes. Mais derrière, la Colombie a démontré, on en parle un peu moins depuis le début de la compétition, que c'était aussi un grand favori qui faisait partie aujourd'hui du Big Four, sans problème, du football sud et nord-américain.
Avec eux, c'est inégal par rapport à l'Argentine. Alors, il y a souvent, ou au Brésil, ou quoi, de, voilà, de ça dépend de génération. Voilà. Voilà.
Vous parlez aussi tout à l'heure de génération qui ne validait pas. Ça a été aussi en grande partie l'histoire de cette équipe colombienne. Elle est bien pensée, elle a un sélectionneur argentin,
comme
cette équipe sur 16 dans cette Copa América. Elle a une charnière centrale d'une solidité à toute épreuve, avec des garçons qui sont passés par la Première Ligue, comme Davinson Sanchez, qui est pour moi le meilleur défenseur de cette compétition. Elle a James Rodriguez, qui est en pleine renaissance, qui est ressuscité.
Exceptionnel.
Et devant, elle a de la vitesse, elle a de la qualité. Il y a aussi Cordoba John, qui fait un très beau tournoi. Elle met de l'agressivité, elle est bien pensée, elle a la profondeur de banc. C'est une vraie belle équipe et c'est une équipe qui peut aller au bout.
Patrick, surtout, on se dit c'est mérité parce qu'en face, on a l'impression, on parlait de ce match affreux entre l'Uruguay et le Brésil, que les Uruguayens, en dépit de leur talent, et on peut les citer, Ungarte, Darwin Núñez, bien sûr, le buteur, et puis Valverde et tant d'autres.
Arroyo qui fait une belle compétition.
Arroyo, mais qui hier ne jouait pas. Mais en tout cas, on a l'impression qu'ils se sont reniés quand même un peu, ces Uruguayens.
Ce qui est terrible, c'est qu'ils
sont redevenus l'Uruguay d'avant.
Ils ont retrouvé leur ADN présent.
La fameuse Garacharua qui est un peu violente.
On l'a vu en tribune en fin de match.
Les brutes des années 80, comme Perdomo et des joueurs comme ça, bon, ça c'est vieux. Hein.
Mais contre la France, vous vous souvenez, à la Coupe du Monde 2002, si je ne me trompe pas.
C'est toujours une équipe
rugueuse.
Avec Silva, enfin oui, c'était chaud.
Un peu la mode paraguayenne parfois.
Mais la séquence est assez terrible pour l'Uruguay, parce que c'est au moment où le monde entier a relayé et a commenté le discours de Bielsa sur les dangers du foot business pour le jeu,
et du jeu
que
moche,
l'Uruguay s'est mis à devenir, à déjouer.
Ils
sortent de cette Copa sur deux matchs à zéro but. Alors que c'est quand même une équipe dont l'entraîneur prône la créativité, essaye de mettre des joueurs techniques sur le terrain. Et finalement, l'Uruguay s'est un peu dégonflé comme une baudruche, comme si trop d'attention
sur l'équipe. S'ils ont un bon avant-centre cette nuit, je pense qu'on n'aurait pas le même discours sur ce match-là.
Dans l'analyse, on ne peut pas... que des joueurs cotés, que des joueurs qui appartiennent à des grands clubs ratent tout... Malheureusement, on peut pas analyser ça en abstraction.
Même la Copa América souffre du rythme infernal.
Évidemment, si Núñez convertit une de ses deux ou trois grosses occasions du début de match, que le match est lancé à 1-0, ça devient un match débridé. C'est autre chose, mais la Colombie n'a pas du tout volé cette victoire acquise à 10 contre 11.
Très fort la Colombie dans un secteur de jeu où ils ont dominé sur cette Copa América, c'est sur les coups de pied arrêtés, sur corner, parce que là c'est Lerma qui
Lerma
marque.
De la tête.
Le coup d'avant, il y avait eu Davinson Sanchez également, ils sont très bons sur corner et coups de pied arrêtés. Pour l'Argentine, ça va être vraiment un secteur à surveiller, d'autant que James Rodriguez, il dépose le ballon exactement là où il a décidé de déposer.
C'est vrai que la Colombie a toujours eu, un peu comme l'Équateur aussi, des joueurs très physiques. Très grand, costaud, en plus d'être technique. C'est pas des prototypes de petits dribbleurs comme on voit. Il y en a certains dans ce 11-là, mais il y a aussi des vraies forces de la nature. Il y en a toujours eu dans cette équipe. Et donc, ça lui donne des atouts que certaines équipes sud-américaines n'ont pas, dont la qualité sur les balles aériennes.
Je trouve que c'est un bon mix, moi, la Colombie. Dans l'Amérique du Sud, je trouve que c'est un bon mix parce qu'ils ont aussi la culture du numéro 10. Il y avait Carlos Valderrama, absolument magnifique. Et James Rodriguez.
Et bien alors justement, James Rodriguez, on va s'arrêter sur lui quelques instants parce qu'on se souvient, sans doute vous aussi, Bruno, de ce jour où il est apparu sur les écrans du monde entier en Mondiovision.
La rescata Bella Vaca, James Rodriguez girando golazo, taque, 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 gol, gol, vino, 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 gol de Mundial, taque, taque, gol, gol, taque, taque, gol, 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 taque, taque, gol, gol, taque, taque, gol, gol, taque, taque, vino, 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 gol.
Alors les c'est toujours un des commentateurs latino-américains. Mais c'est difficile de les imiter. On sait que Bruno Salomon essaye de le faire sur les antennes. De...
Il y a David Finzel, un très bon imitateur. J'ai cru qu'il pleurait.
D'ailleurs, c'est lui qui a doublé, là. Il est bon.
Là, c'est la bande originale.
La production est...
Racontez-nous ce but, Bruno Constant. C'était au Maracana, et c'était juin 2014. Et c'était un Colombie-Uruguay.
J'ai plus de souvenirs, moi, de ce but. Moi, j'avais les souvenirs de l'ambiance parce que c'était le Maracana et parce que c'est, on était
tous... reprise de volée, là.
Ben oui.
Pied gauche, là, qui va en pleine lucarne.
Exactement. Non, qui finit... Nabil n'y était pas, mais s'en souvient.
Je m'en souviens parfaitement, ouais.
Mais on s'en souvient tous parce que c'était un but extraordinaire et que tout d'un coup, peu de temps après, il part au Real Madrid.
Vous avez vu ce joueur-là? Ben c'est là, 10 ans après, là, c'est exactement le même. Quand il met le maillot de la Colombie... Il est, en fait, il est au centre du jeu, un peu comme Messi finalement avec l'Uruguay. Je ne dis pas qu'il y a 10 soldats autour de lui, mais c'est un peu ça l'esprit. Il défend un peu moins. En revanche, il a une qualité technique, il a une manière d'aérer le jeu, de le fluidifier.
Un regard
qui est
extraordinaire.
Là, vous avez dit Yannick qui était à 6 passes décisives, si je ne dis pas de bêtises.
Oui,
ce qui en fait pour l'instant...
Un record.
Il est au-dessus de Messi.
Plus que Messi.
Ce qui en fait pour l'instant le meilleur joueur de la compétition, clairement. Après, James Rodriguez, c'est un artiste. Après, il y a eu des choix de carrière. C'est vrai qu'il part à Everton, alors c'est avec Ancelotti, mais est-ce que la première ligue lui correspondait? J'ai pas eu l'impression.
Non. Ah, il était exceptionnel sous Ancelotti.
Sur la première saison, non ?
Les choses se sont dégradées, notamment avec Ancelotti, parce qu'il avait des envies d'ailleurs. Mais moi, je trouve extraordinaire, c'est que James Rodriguez, honnêtement, avant cette Copa, moi, je ne savais même plus où il jouait.
Au Brésil.
Alors, je vous le dis,
on l'avait perdu
à Sao
Paulo,
il est très colore.
Il joue pas beaucoup.
Mais on l'avait perdu de vue, en fait, parce que le championnat brésilien, c'est quand même assez faible. Et puis un moment
d'histoire.
En tout cas,
il a le mérite d'exister.
Ouais, un moment de l'histoire où on parlait des numéros 10 qui étaient en train de s'effacer progressivement du jeu, notamment avec le Luka Modric. On a un nouveau.
Mais ils aiment bien Sao Paulo, hein.
Ouais,
des numéros 10, ils en ont formé beaucoup.
Un numéro 10 qui ressort là, qui nous enchante. Et effectivement, il a un toucher de balle, c'est quelqu'un qui caresse le ballon. Et de revenir à ce niveau-là, à ce moment de sa carrière, c'est exceptionnel. Je ne sais pas s'il peut avoir une deuxième carrière, peut-être se relancer
vers
un club européen.
Aussi.
Il pourrait venir à
Marseille.
Quel plaisir
de le voir jouer. Mais il serait génial à Marseille.
Bah Marseille, il serait fait pour Marseille.
Non, mais il faut faire un tweet, Nabil. Vous êtes du côté de Marseille.
C'est pareil, moi je l'attendais plus. Mais il faut se rappeler quand même qu'au mois de mars, il y avait eu un match amical Colombie-Espagne et qu'il était déjà réapparu. Il était ressorti de sa boîte comme un diable.
Et Patrick, comment le comprendre ça? Parce que ce n'est pas que de sa faute à lui. Je veux dire, il a eu des méformes, mais des blessures, on s'en souvient, notamment au Real. Mais il y a eu aussi des entraîneurs dans les clubs où il est passé. On se souvient, donc il y a eu Monaco, après il y a eu le Bayern, Real-Bayern, où on ne l'a pas aussi toujours utilisé à bon escient, non?
Je pense aussi que ce sont des joueurs qui ont peut-être du mal avec l'enchaînement des matchs rapprochés, les saisons à 50-55 matchs. C'est peut-être plus difficile pour eux qu'un tournoi où en plus ils sont galvanisés par la fierté nationale, le maillot
parfois
transcendé.
C'est plus le football actuel en fait. Les numéros 10 n'existent plus aujourd'hui. Quelle équipe à l'Euro a un numéro 10?
Un numéro 10 avec des saisons à 55 matchs, c'est plus compliqué. On valorise, même des coachs joueurs type Guardiola, ils vont plus valoriser des joueurs endurants. Des joueurs qui ont la capacité à répéter des efforts.
Si on a un
numéro 10, on en a encore un Modric. Ouais. Mais Modric, à son âge, il a un programme un peu à la carte. Il joue plus tous les matchs entiers.
Patrick, tu es sur la fin de Modric. C'est fini, Modric.
Bien sûr.
Mais ça répond à ce que disait Bielsa sur l'athlétisation du football. Où aujourd'hui, on prend des joueurs très athlétiques qui courent, qui ont un double emploi, qui sont box-to-box. Et les numéros 10 disparaissent du football. Et c'est bien qu'il y ait ces joueurs-là, comme James Rodriguez,
et d'ailleurs cette Copa América
pour nous rappeler l'importance du plaisir du jeu, du plaisir du toucher de balle, des frappes enroulées.
Moi, ça c'est malheureusement, je trouve que c'est un phénomène de grands tournois. Je me rappelle de Blati Touré avec le Burkina Faso à la CAN 2021. Dans un registre de numéro 10 comme ça, il avait été fantastique. Mais ce n'est pas un joueur qui joue dans des grands clubs et qui va aller en Ligue des Choses, dans des clubs de Ligue des Champions.
Mais sur cette Copa América, il y a quand même un... C'est vrai cette appétence quand même du football sud-américain pour les grands 10, même s'il y a pas de très grands 10, mais il y a quand même on a vu James Rodriguez du côté de l'Uruguay, il y a Ulysse de la Cruz là qui a été pas mal, qui a été placé en numéro 10. Du côté de l'Équateur, un jeune joueur que je vous invite à surveiller qui a un pied gauche soyeux, qui est exceptionnel, qui a joué comme meneur de jeu, Kendry Páez, 17 ans, qui a signé à Chelsea, qui va arriver d'Amérique du Sud. Donc il y a quand même quelques joueurs qui sont encore dans ce registre dans les sélections sud-américaines.
Il y a une fibre
en Europe, je suis d'accord avec toi.
Il reste un peu une spécificité.
Voilà, c'est en voie de disparition.
Le numéro 10 joue maintenant sur les côtés en fait. C'est des joueurs qu'on excentre pour revenir sur les pieds. Foden, par exemple, qui joue souvent sur un côté à City, c'est un numéro 10. Non, il revient à l'intérieur.
Dans le foot actuel, il y a aussi des 6 ou des 8 qui ont des qualités de 10, mais qui sont utilisés plus pour leur abattage.
Bah, Valverde, il est dans l'axe, il fait que ça. Hein.
Même Sabitzer, c'est pas un vrai 10, mais il aurait les qualités. En d'autres temps, il aurait joué 10.
En tout cas, rendez-vous dans la nuit de dimanche à lundi. Après la finale européenne, et ben on pourra avoir la finale sud-américaine. Elle n'est qu'à 2h du matin.
Ah, ça va.
À minuit.
Non, mais 2h, ça va. 3h, bonjour les dégâts.
Oui, là, c'est un peu trop, surtout quand c'est Uruguay-Brésil. Ouais. En tout cas, nous verrons bien. Les Colombiens, ils sont sur une belle dynamique aussi. Hein. 28 rencontres depuis le début de 2022. Une seule défaite, malheureusement, contre l'Argentine, qui compte encore sur son Messi, bien entendu. Et qui est un super gardien, on le sait aussi. Allez, on continue et on va du côté de l'Afrique. Un cri d'alarme, ou peut-être un SOS, sous la forme de lettres ouvertes que viennent de lancer nos confrères africains de la IPS, l'Association internationale de la presse sportive, section donc Afrique. Elle est datée du 8 juillet dernier, cette lettre postée de Dakar, une missive adressée au président de la Confédération africaine de football, le sud-africain Patrice Motsepe, pour lui communiquer toute leur inquiétude quant à l'avenir des compétitions du continent, que ce soit la CAN et masculine et féminine, une nouvelle fois déplacées hein, les deux dans le calendrier, ou alors le CHAN, alors lui, il a carrément disparu de ce même calendrier. Aucune visibilité, alors que la FIFA a mis la main sur la CAF et l'a mise au pas depuis plusieurs années. On le sait et on en parle souvent ici. Interpellé par écrit, bien, nous en avons aussi eu envie de l'entendre, le président de cette association, Abdoulaye Thiam, qui est en ligne avec nous. Bonjour Abdoulaye.
Bonjour Annie, bonjour à Nabil, Patrick, Bruno, David.
Bonjour Abdoulaye.
Je m'autorise le tutoiement. Hein.
Ouais,
vous avez bien raison, président Abdoulaye Thiam. Première question, et mes amis vont nous aider aussi en ont sans doute, mais pourquoi cette lettre ouverte maintenant? Est-ce que c'est le dernier glissement, hein, j'emploie le terme africain, est-ce que c'est le dernier glissement des dates des deux CAN féminines et masculines qui vous a poussé à écrire cette lettre?
On espère bien que ça soit le dernier glissement. En tout cas, on en a tellement entendu parler depuis de ce terme-là, depuis Ahmad Ahmad. Aujourd'hui, c'est une sorte d'alerte. On a essayé juste de tirer la sonnette d'alarme pour attirer l'attention des dirigeants du football africain par rapport à cette situation-là, fondamentalement, l'absence de visibilité sur la tenue ou pas de la CAN, qui est une compétition quand même majeure, la plus lucrative sur notre continent.
Absence de visibilité, dites-vous, il n'y a pas véritablement de calendrier. Nous, ici, on s'arrache toujours les cheveux de savoir quand il faut préparer les équipes, quand il faut passer les contrats, quand il faut installer tout ce qui est organisation matérielle. Et là, on est face à un calendrier un peu vide ces temps-ci.
Effectivement, si on a ce problème de visibilité-là, ça risque d'avoir aussi un impact sur les annonceurs et autres sponsors. C'est extrêmement important. N'oublions pas quand même quand Patrice Motsepe est arrivé à la tête de cette confédération le 12 mars, comme nous l'avons rappelé, 2021, la Confédération africaine de football était au bord d'une impasse financière. Ce n'est pas mes mots, c'est Fouzi Lerja, lui-même le président de la commission des finances, le marocain, qui l'avait annoncé. Mais depuis un certain temps quand même, il faut aussi l'admettre, la CAF a pu reprendre du poil de la bête sur le plan financier. Seulement, en termes d'agenda international qui est complètement bousculé par cette guéguerre, entre guillemets, qui ne dit pas son nom, entre la FIFA et l'UEFA, aujourd'hui, on a comme l'impression que la CAF est bête en dommage collatéral. Et ça, il était de notre ressort, même si le football est géré par la Confédération africaine de football. En Afrique quand même, vous le savez mieux que moi, il y a d'autres parties prenantes, la presse en fait partie, mais aussi les dirigeants du continent, parce que quand on parle du sport en Afrique, c'est plutôt les États.
Ce qui est étonnant peut-être, Président Thiam, c'est que le coup de colère finalement vient de vous, confrères, qui suivez et qui valorisez finalement ces compétitions, et pas des dirigeants de fédérations africaines, quelles qu'elles soient, et il y en a 54. Pourquoi, selon vous, ils n'osent pas?
Bon, il y en a eu dans un passé plus ou moins récent. Il y a eu certains présidents africains qui ont osé faire le holà. Notamment, on se souvient quand il y a eu la proposition Raoul Rawa. À l'époque, c'était Issa Hayatou qui était le président de la Confédération africaine. On se souvient comme Augustin Senghor, Jacques Anouma, Moussa Bilé du Libéria avaient dit non à cette proposition qui est aujourd'hui complètement annulée, parce que tout le monde se souvient que pour être président de la CAF, on avait dit qu'il fallait au préalable avoir été membre du comité exécutif. C'était une proposition très rétrograde. Malheureusement, depuis quand même depuis la chute d'Issa Hayatou, qui a été facilitée bien sûr par la FIFA, vous l'avez dit ici sur votre radio, et ça, tout le monde s'accorde là-dessus. Aujourd'hui, on a comme l'impression que personne n'ose plus rien dire. Et j'ose espérer que suite à cette lettre-là, elle fera tache d'huile, que certains chefs d'État africains aussi vont prendre leur bâton de pèlerin pour attirer l'attention davantage de nos dirigeants, mais aussi et surtout, comme vous l'avez dit, les présidents d'associations, de fédérations vont dire qu'à un certain moment donné, quand même, il faut qu'on arrête, on ne peut pas choisir une date d'une compétition qui remonte à 1957, la dernière née de la FIFA vient bousculer tout et qu'on se retrouve à jouer dans une année où il y a même la Coupe du Monde. Parce que c'est ça le problème aujourd'hui, nous allons jouer en 2026 deux grandes compétitions.
Ben oui.
Il faut quand même respecter les jours africains. On va jouer en 2026, la finale est prévue le 18 janvier 2026 et après au mois de juin, on va encore jouer une Coupe du Monde.
Donc, et nous, qui va durer longtemps en plus.
Effectivement. Mmh. Et pire encore, c'est qu'ils ont choisi la date pendant la trêve hivernale. Mmh. Sauf en Angleterre où il y a le Boxing Day. On commence le 21. Ce qui veut dire que les joueurs africains n'auront même pas droit à une trêve hivernale comme les autres joueurs européens ou latino-américains et ainsi de suite. Et après, on enchaîne, on va aller en 2026 en été pour jouer la Coupe
Mexique
du Monde. Or, tout le monde sait, quand même, la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique qu'on a commencé à jouer en année impaire, était relative à des critiques venant des joueurs qui avaient demandé à la CAF de ne plus coïncider l'organisation d'une Coupe d'Afrique avec l'année où il y a la Coupe du Monde. Oui. Aujourd'hui, on retourne dans les mêmes travers.
En tout cas, Abdoulaye Thiam, je vais passer la parole à mes collègues, mais une dernière chose, est-ce que cette lettre, pour l'instant, vous avez eu des échos, voire une réponse ?
Nous avons eu des échos, mais ce que nous avons eu comme échos, c'est des réponses, comme on appelle dans notre profession, c'est plutôt anonyme, c'est des présidents de fédération ou bien des dirigeants africains qui ont quitté la CAF, qui étaient sous Hayatou, ou bien qui préfèrent parler sous le couvert de l'anonymat, qui ont dit, mais écoutez, vous avez dit, parce que tout le monde, personne ne comprend, mais nous voulons que vraiment que les gens aient beaucoup plus de courage pour le dire, parce qu'il y va de l'intérêt du football africain.
Ouais.
Ce n'est pas une critique formulée contre Patrice Motsepe, mais nous voulons tout simplement que les gens quand même puissent être beaucoup plus regardants sur l'intérêt du football africain. Parce que Séverine, il est là pour défendre le football européen.
Hein.
Et donc, la CONMEBOL, la CONCACAF, l'OFC, l'AFC, tout le monde défend une compétition de sa confédération, sauf en Afrique aujourd'hui. Et quand même, je pense que compte tenu de tout ce que l'Afrique a fourni en termes de joueurs, en termes de dirigeants, on méritait plus que ça.
Patrick Juillard.
Mieux que ça.
Oui, bonjour.
Bonjour Patrick.
Bonjour Abdoulaye. Une question sur la périodicité de la CAN. On sait que Gianni Infantino, le président de la FIFA, ne cache pas son désir de voir la CAN passer à une édition tous les 4 ans. Les problèmes de calendrier risquent de faire grincer des dents et de justifier que la FIFA vraiment mette la pression sur la CAF pour passer à une édition tous les 4 ans. Est-ce que ce n'est pas le principal danger derrière tous ces glissements ?
Absolument. Je suis tout à fait en phase avec vous. C'est ce qu'il essaie tout simplement de faire. Or, nous l'avons rappelé aussi dans la lettre. À l'époque, quand Issa Hayatou parlait d'une organisation de CAN biennale tous les 2 ans, l'objectif recherché, c'était de permettre à certains pays africains de se doter des infrastructures. Je vous donne juste 2 exemples. Avant l'organisation de la CAN en 2021 au Cameroun, la dernière infrastructure installée dans un aussi grand pays que le Cameroun remonte à 1972. C'est le stade Amadou Ahidjo. Au Sénégal, nous avons organisé qu'une seule compétition avant l'installation du stade Abdoulaye Wade par l'ancien président Macky Sall. Notre dernier stade remonte à 1985. On l'avait construit en perspective de la seule et unique CAN que nous avons organisée en 1992. Donc, c'était une belle opportunité que certains pays africains, en tout cas en Afrique au sud du Sahara, excepté bien sûr l'Afrique du Sud qui est capable d'organiser une Coupe du Monde, que les autres puissent se doter d'une infrastructure aujourd'hui, parce que chez nous, tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Tant que vous n'organisez pas une Coupe d'Afrique, vous ne pensez pas à construire des infrastructures devant permettre à la jeunesse de votre pays de pratiquer le sport de votre choix.
Et c'est pour ça que beaucoup de sélections, on en parle souvent aussi dans l'émission, ne jouent pas devant leur public tant des phases éliminatoires que, que ce soit pour la CAN ou que ce soit pour la Coupe du Monde. Nabil Djellit.
Oui, Abdoulaye, bonjour. Déjà, tout mon soutien pour votre lettre. C'est bien d'être des lanceurs d'alerte. J'ai eu la chance de vivre le CHAN en Algérie. Qui était une compétition en termes d'organisation de niveau CAN largement, et qui avait aussi l'avantage de mettre en avant ce que, à chaque fois, nous annoncent tous les présidents des confédérations africaines de football et tous les membres du comité exécutif, de mettre en valeur les talents du continent africain et de permettre aux championnats africains d'envoyer leurs meilleurs représentants et de progresser. Et ce CHAN, aujourd'hui, il est passé à l'as, alors que c'était une réussite la dernière fois. C'était aussi une réussite au Cameroun, si je me souviens bien. Qu'en pensez-vous ?
Absolument, c'était une belle réussite d'abord au Cameroun, puis après au niveau de l'Algérie, qui a organisé une très belle compétition. Et c'était aussi encore une trouvaille de Issa Hayatou. L'objectif recherché, vous l'avez dit. Aujourd'hui, si vous prenez le cas du Sénégal, tout le monde parle aujourd'hui de Lamine Camara. Mais Lamine Camara, c'était des compétitions, des petites catégories. D'autres ont eu à participer au CHAN qui frappe aujourd'hui à la porte de l'équipe nationale du Sénégal. Il y avait un seul souci, c'est parce qu'il fallait permettre à certains joueurs évoluant, par exemple, au Maroc, évoluant en Afrique du Sud, de pouvoir participer à ces compétitions. Et là, on avait réglé ce problème. Malheureusement, ce CHAN-là, aujourd'hui, il a complètement disparu. On ne sait pas quand est-ce que ça va être organisé.
Mais il faut demander à la FIFA, c'est eux qui décident pour l'Afrique. Je ne sais, sais pas si vous êtes au courant.
Si on doit demander tout à même l'organisation du CHAN, encore à la FIFA...
Tant que l'Afrique est un réservoir de voix...
Ce qui est dommage, c'est de ne pas avoir rendu le CHAN qualificatif pour les Jeux Olympiques. Ça aurait peut-être donné un enjeu supplémentaire et un poids supplémentaire à ce tournoi.
Donner des idées. En tout cas, j'imagine que...
Oui, ça aussi, c'est une idée. C'est une bonne idée.
Abdoulaye Thiam, quand on dit ironiquement la CAFIFA, j'imagine que ça ne vous fait pas trop rire.
La FIFA Afrique.
En tout cas, j'ai comme l'impression qu'on a mis le loup dans la bergerie depuis 2017. Bon. Nous étions tous, moi en premier, très critiques envers Issa Hayatou par rapport à sa façon de gérer la CAN. Mais on pouvait tout lui reprocher, sauf que c'était quelqu'un quand même qui avait une certaine autorité.
Et qui défendait
quand il décidait de sa CAN, il la tenait.
Et qui défendait le football africain.
Qui défendait le football africain et devant les 14 clubs les plus puissants d'Europe. Il a toujours su dire non.
Et c'est pour ça que dans
Ahmad,
Madame, ça avait mal tourné. Donc.
Lui, c'est la pire, je crois que c'est l'un des pires présidents que la CAF n'a jamais connu.
En tout cas, dans votre lettre, vous dites aussi qu'il faut déconstruire l'image de bétail électoral, ces fameuses 54 voix qui sont souvent réservoir utilisées. Exactement. Merci beaucoup, Président Abdoulaye Thiam, d'avoir été en direct avec nous dans Radio Foot. Merci.
À bientôt, Abdoulaye.
Et on attend la suite.
Merci à vous. Merci.
On attend la suite de cette lettre. Et c'est la fin de ce Radio Foot International. Merci beaucoup, les amis. Je voudrais saluer les deux confrères togolais qui sont dans notre studio aujourd'hui, qui sont venus nous voir en passant par Paris. La prochaine fois, on les mettra derrière un micro. Henri et Cero, qui sont des confrères de New World TV et qui rentrent à Lomé très bientôt dans ces prochaines heures. Et puis demain, n'oubliez pas, c'est le Café des Sports. Et pour le Café des Sports, on attend déjà, David Finzel les attend, vos cartons filmés, bien sûr.
Moi, je ne suis pas là parce que j'en ai un, là, ça me démange.
Ah bon? Oui. Moi aussi, je crois. C'est le même.
Un carton rouge au sélectionneur de l'équipe de France. Il faut qu'il arrête.
Bon, mais ça, il faut. On verra demain si ça donne des idées à nos auditeurs. Merci beaucoup, Bruno,
merci.
Patrick
plaisir.
Et Nabil d'avoir été dans Radio Foot aujourd'hui. On se retrouve demain. Ça sera le dernier Café des Sports filmé de la saison, puisque dès lundi.
C'est la trêve estivale.
Voilà, c'est la trêve. On se repose un peu avant la reprise des championnats. Merci à tous. Bonne soirée.